Radio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Ansongo, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Bonjour et bienvenue à cette édition matinale. Voici les titres. 11 morts, 14 blessés, dont 8 graves, 11 portés disparus et 3 véhicules détruits. C'est le bilan d'une embuscade tendue lundi contre des éléments de l'armée malienne sur l'axe Lele-Hoïté-Sit. Mise en place d'un comité d'orientation stratégique pour la conduite des réformes, les groupes armés signataires de l'accord de paix et la société civile attirent l'attention du gouvernement sur le caractère inclusif du dit comité. Les mesures barrières peinent à être respectées dans la ville de Kaï. Face à cette situation, les autorités sanitaires interpellent les populations. Point complet de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté, mise en onde Mamadou Ouattara. Je vous le disais dans le titre, 11 morts, 14 blessés, dont 8 graves, 11 portés disparus et 3 véhicules détruits. C'est le bilan d'une embuscade tendue lundi contre des éléments de l'armée malienne sur l'axe Lele-Hoïté-Sit par des groupes terroristes à bord de pick-up et sur des motos. Selon un communiqué du chef d'état-major général des armées, 7 assaillants ont été tués. Une opération de ratissage est en cours, précise le communiqué. Afin de mener à bien les réformes politiques et institutionnelles, le comité d'orientation stratégique sera mis en place très prochainement, selon le Premier ministre. Cet organe consultatif sera composé des forces vives du pays. Les groupes armés signataires de l'accord de paix issu du processus d'Alger, eux, y fondent beaucoup d'espoir dans l'application de l'accord de paix et de réconciliation, alors que la société civile, quant à elle, attire l'attention du gouvernement sur le caractère inclusif que doit avoir ce comité. Les détails avec Intala Agbilal.
Pour la directrice exécutive de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD, ce comité stratégique peut être le cadre idéal pour engager les réformes s'il y a vraiment une volonté politique et l'engagement des forces vives. Cependant, Adam Diko prévient que la réussite de cet organe dépend de son inclusivité et d'un agenda clair.
Donc nous pensons vraiment que si ce cadre est pris au sérieux, si l'idée derrière c'est d'aller vers des réformes profondes, nous pensons que ce cadre pourrait être un facteur très important et un facteur aussi d'accélération pour aller rapidement vers ces réformes. Les 12 mois qui nous restent, nous pouvons aller vers ces réformes et organiser des élections libres, transparentes et surtout participatives.
Pour le groupe armé de la plateforme, la mise en place de ce comité est capitale au regard de l'importance des réformes qui l'attendent. Cet avis est partagé par Mohamed El Mouloud Ramadan, porte-parole de la coordination des mouvements de la Zawad Sema. Selon lui, le travail de cet organe aura un impact positif dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation.
Pour nous, la Sema, c'est quelque chose d'important. C'est un comité qui va travailler sur les réformes institutionnelles, la révision de la Constitution, sur la réorganisation territoriale, sur la régionalisation. Et tous ces points sont presque liés à la mise en œuvre de l'accord.
Il faut rappeler que ces réformes vont concerner la Constitution, la réorganisation du territoire, le système électoral, entre autres.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La réparation, une voie vers la réconciliation et la stabilisation pour une paix durable, c'est le thème d'une conférence internationale sur la justice transitionnelle qui s'est ouverte hier à Bamako. Durant 2 jours, les experts nationaux et internationaux vont échanger sur la modalité de réparation des victimes de la crise malienne. La rencontre est organisée par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, le ministère de la Réconciliation. Le détail avec Mamadou Samasekou.
Selon le président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, Ousmane Oumarou Sidibé, cette rencontre est un moment de plaidoyer pour la mise en place d'un fonds de réparation en faveur des victimes.
Les expériences étrangères qui nous seront présentées nous permettront de tirer les leçons des défis et opportunités rencontrés dans la mise en œuvre des politiques de réparation qui sont incontournables pour réussir la paix et la réconciliation nationale dans tous les pays ayant traversé des crises profondes caractérisées par des violations massives des droits de l'homme.
Pour le ministre de la Réconciliation nationale, une véritable réconciliation implique la nécessité d'une justice transitionnelle transformatrice. Le colonel-major Ismaël Wagué ajoute que la réparation y joue un rôle essentiel.
Pour que nous puissions atteindre le but rêvé de la paix, les milliers de Maliens qui souffrent aujourd'hui de traumatismes de la pauvreté générée par la violence doivent obtenir une équitable réparation. L'engagement des autorités de la transition en faveur de la réparation des victimes de la crise malienne, avec des bases juridiques et politiques profondes, doit être bien plus que l'engagement d'un gouvernement en particulier.
Rappelons qu'il y a plus de 20 000 dépositions au niveau de la CVJR. Selon la CVJR, la réparation s'effectue sera forcément sur la base des critères. Les victimes qui exigent la voie de la justice peuvent se référer à l'organisation Avocats sans frontières, précise la CVJR.
À direction Kayahou, la région est l'une des premières villes touchées par le coronavirus au Mali. Avec près de 700 cas positifs, les mesures barrières ne sont pas respectées dans la ville. Face à cette situation, les autorités sanitaires interpellent les populations au respect strict des gestes barrières. Les détails avec notre envoyé spécial à Kay, Juliette Koulibaly.
À Kay, le dispositif de kit de lavage de mains est visible dans presque tous les services publics et le port du masque est obligatoire. Mais au marché et les autres lieux publics, c'est une autre réalité. Si certains sont conscients de l'existence de la maladie, d'autres n'y croient toujours pas.
Certains disent que si tu le mets dans le nez, ça le fait gonfler.
Et nous, nous n'avons pas étudié, c'est pourquoi nous ne croyons pas à la maladie.
Nous prions Dieu de nous en préserver. J'ai mon masque à la maison. Nous croyons en la maladie et nous respectons les mesures barrières.
C'est une maladie inventée.
Les autorités sanitaires expliquent ce relâchement par le faible taux actuel des cas confirmés dans la ville. Cheikh Amadou Tidiane Traoré, directeur régional de la santé à Kay.
Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de relâchement parce qu'il y a eu la régression du nombre de cas. Mais nous continuons toujours à être avec les communicateurs, les gens de la presse, pour renforcer la communication, la sensibilisation, pour que le changement de comportement puisse suivre.
Les responsables sanitaires rassurent également que des échanges sont en cours afin d'administrer la première vague du vaccin aux personnes les plus vulnérables. Juliette Koulibaly, depuis Kay pour Studio Tamani.
Et justement, faisons le point de la situation de la maladie au Mali. À la date du mardi 16 mars 2021, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 85 nouveaux cas positifs, 15 patients guéris et un décès. Ainsi, la situation cumulée est de 9 018 cas positifs, dont 6 526 guéris et 364 décès. Place maintenant à notre rubrique Actu Covid présentée par Aissata Diarra. Studio
Tamani. Chers auditeurs, bienvenue dans la rubrique d'Actu Covid. Aujourd'hui, nous vous proposons une série de questions répondues par 5 spécialistes de la santé.
Allô, arrive-t-il qu'un patient soit déclaré positif alors qu'il ne l'est pas?
Il y a ce qu'on appelle des faux positifs ou des faux négatifs. Des gens qu'on déclare négatifs alors qu'ils sont positifs ou des gens qui sont positifs qui sont réellement négatifs. Et ça, c'est vraiment infime partie. La spécificité du test est de 98%. Donc scientifiquement, la proportion des gens qui vont être faux positifs ou faux négatifs est très faible.
Utiliser le même casque pour emprunter les mototaxis peut-il être un facteur de contamination à la COVID-19?
Si une personne infectée par le virus avait porté le casque et qu'une autre porte le même casque, si la personne sera infectée, le mieux est de chaque fois désinfecter le casque avant que quelqu'un d'autre ne le porte.
Allô docteur, parmi les malades de COVID-19 au Mali, on constate que les hommes sont plus touchés que les femmes. Scientifiquement, qu'est-ce qui l'explique?
Effectivement, c'est comme la tuberculose. Peut-être il s'agira de la susceptibilité génétique et aussi du fait que l'homme est plus mobile que la femme. Mais tout ceci là seront éclairés au fur du temps parce qu'il y a plusieurs projets de recherche qui sont là pour essayer de répondre aux questions des uns et des autres.
Allô docteur, le dépistage massif est-il un moyen efficace pour limiter la propagation du coronavirus?
Très belle question. On vous a parlé des porteurs sains asymptomatiques. Il y a des malades et même ils ne savent même pas qu'ils sont malades. En faisant le dépistage des malades, on peut déterminer ces malades-là pour les traiter. Donc le dépistage des masques, c'est la solution idoine pour rapidement rompre la chaîne.
Allô professeur, avec le développement des vaccins, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la pandémie soit arrêtée dans le monde?
Toute épidémie, casser la chaîne de transmission, il faudrait au moins vacciner près de 80% de la population. Est-ce que la disponibilité du vaccin, même au niveau mondial, peut atteindre ces 80%? J'en doute. Pour le Mali pratiquement, les doses qui sont prévues pour le pays ne vont pas couvrir les 80% de la population. Cette vaccination, si elle est efficace, elle a une certaine durée. On ralentit la transmission et si on respecte les mesures d'arrivée, on pourrait atténuer de façon considérable l'épidémie.
C'est tout pour ce numéro d'Actu Covid. Merci à vous de l'avoir suivi. Suivez les conseils des médecins pour vous protéger de la maladie à coronavirus.
Sur 15 000 femmes enceintes attendues en 2020, seulement 8 857 ont accouché dans les centres de santé dans le cercle de Yoroso. Sur 14 000 grossesses attendues, 330 femmes ont accouché par césarienne en 2020 contre 208 en 2019. C'est ce qui ressort de la revue annuelle du district sanitaire de Yoroso. Selon les responsables du district sanitaire, ces chiffres sont faibles par rapport à 2019 qui était de 9 208 accouchements assistés. Ils expliquent que les femmes sont de plus en plus réticentes à la césarienne alors qu'elle peut sauver des vies. À Yoroso, le reportage de notre correspondant Ali Aïdra.
Selon les responsables du district sanitaire, cette faible fréquentation des centres de santé est la principale cause des décès maternels et infantiles. Docteur Aboubakar Batili, médecin chargé de la santé de la reproduction au CCRF de Yoroso.
Au niveau du district sanitaire de Yoroso, bon, globalement, il y a une sous-fréquentation des femmes. En 2020, il y a 11 femmes qui ont perdu la vie durant la grossesse, l'accouchement ou après l'accouchement. Aussi, nous avons constaté des morts nés sans 4.
Au bout de leur grossesse, plusieurs femmes arrivent tardivement au centre de santé de référence par peur de la césarienne, comme nous l'affirme cette sage-femme.
Beaucoup ne veulent pas venir dans les centres de référence parce qu'elles pensent qu'en venant ici, elles seront opérées. Elles essayent d'accoucher d'elles-mêmes et après, quand elles n'y arrivent pas, elles viennent ici, mais ça trouve que c'est trop tard parfois. L'enfant ne peut pas être sauvé, la maman non plus.
Toutefois, la césarienne peut sauver la vie de la maman et de l'enfant si les femmes n'arrivent pas tardivement au centre de santé. Docteur Aboubakar Batili, médecin chargé de la santé de la reproduction au CCRF de Yoroso.
Il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas accoucher d'elles-mêmes. On trouvera que chez certaines, les bassins sont rétrécis ou bien elles ont des utérus avec traces d'intervention chirurgicale. Ou bien l'enfant se trouve en présentation transversale. Donc, elle ne peut pas accoucher par les voies normales.
Notons que des campagnes de sensibilisation se tiennent chaque mois dans le cercle pour rehausser les taux de fréquentation des centres de santé et lutter contre les accouchements à domicile. De Rosso, Ali Haidara pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité régionale, les conséquences des mutilations génitales du mariage précoce et forcé sont au cœur d'un atelier à Bankas. Démarré lundi, l'atelier de 5 jours, selon les organisateurs, a pour objectif de sensibiliser les communautés sur les conséquences liées aux violences basées sur le genre et l'abandon de la pratique de l'excision, le mariage précoce et forcé des jeunes filles. La rencontre est organisée par Debo Alafia en partenariat avec les autorités sanitaires. Les leaders communautaires de 5 communes, Bankas, Kani, Lesagou, Kulongo et Ségué, participent à l'atelier. Le cercle de Kadjolo a abrité le week-end dernier au rythme du festival Senokongwamni, initié par l'artiste musicien Lamoussa Bamba dit Kadjolo Nabi. Son objectif, selon lui, est de restaurer et perpétrer un pan important de la culture sénéfo. La rencontre a enregistré la présence des artistes et invités venus de l'intérieur du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et de la Guinée et Conakry. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.sudiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamon au 37 321. Restez à notre écoute dans quelques minutes. Ce sera la version Bambara de cette édition, une présentation de Idrissa Sako. Mais avant tout de suite, la question A.